Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, silence dans l'espace, où l'histoire de la supposée grève des astronautes de la mission Skylab. Le 27 décembre 1973, la station spatiale américaine interrompt brutalement ses communications avec la Terre. Pendant 90 minutes, les ingénieurs du centre des opérations de la NASA vont tout tenter pour établir le contact avec les trois astronautes à bord, envisageant évidemment les pires scénarios, incident technique majeur, collision avec une météorite et même la possibilité d'un piratage du module par l'Union soviétique. Après une heure et demie d'angoisse, Skylab reprend contact avec la Terre, mais les autorités de la NASA taisent l'événement à la soviétique. Le dossier est à ce point sensible qu'au début des années 2000, soit 30 ans après les faits, l'agence américaine publie un nouveau rapport d'enquête pour démontrer que la mission Skylab 4 s'est déroulée sans problème. Oui, mais, et c'est justement, pour la première fois dans l'histoire de la conquête spatiale, des astronautes s'étaient rebellés contre leur commandement. La question est troublante. Elle est posée par cet épisode décidément un peu banal. Notre invité aujourd'hui, Philippe Hénarejos, journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Il a suivi la découverte des premières exoplanètes. Il est l'auteur également du livre intitulé « Ils ont marché sur la Lune » publié chez Belay en 2018. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Koum.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Intersoir, Michel Forgy.
Espace, on commence à avoir quelques détails sur le programme Skylab, ce laboratoire spatial américain qui sera mis sur orbite terrestre l'an prochain avec trois hommes à bord.
La première mission Skylab est prévue pour avril 73. Elle durera 28 jours. Tous les renseignements recueillis par les caméras et les différents appareils de détection seront mis à la disposition des savants américains et également étrangers. Une centaine de chercheurs ont déjà soumis des projets d'études qui ont été approuvés par la NASA. En France, par exemple, M. Jacques Guillemot de l'Institut français du pétrole propose une étude comparative de la structure rocheuse des massifs pyrénéens et alpins.
Au mois d'août 1972, la NASA rend public un tout nouveau programme. Un projet qui répond au nom de code Skylab. Le laboratoire du ciel, en français, ambitionne d'être la toute première station spatiale. Une superstructure qui gravitera en orbite basse à 430 km d'altitude autour de la Terre et à l'intérieur de laquelle pourront vivre une douzaine d'astronautes. En vérité, c'est le début de la fin du rêve spatial. En décembre de cette année-là, s'envolera Apollo 17, la dernière mission à envoyer des hommes sur la Lune, épilogue d'une fabuleuse conquête, commencée à l'orée des années 60, avec les programmes Mercury, Gemini, puis Apollo, l'apothéose, passeport pour le rêve, le leur, là, sur la Lune, le nôtre, là, sur la Terre. Quand Gene Cernan remontera dans le LEM de la mission Apollo 17 pour le voyage retour, il s'inscrira dans l'histoire comme le dernier homme à avoir foulé le sol céleste. Après lui viendra le temps prosaïque d'une activité spatiale qui se contentera de tourner autour de la Terre pour des motifs commerciaux ou pour nous surveiller, nous ici-bas sur cette Terre. Aux voix mystérieuses et nasillardes de Neil Armstrong ou Jim Lovell, silhouettes déformées par une image qu'on trouverait aujourd'hui artisanale, mais tellement émouvante, d'Apollo 11 ou Apollo 13, ont succédé les directs live dans telle ou telle station spatiale, témoignages d'astronautes qui nous racontent leur quotidien jusqu'à plus soif. La poésie a quitté l'espace. Le programme Skylab, lui, se situe à un point de transition de l'idée que se font les Américains de leur conquête spatiale. On n'est plus dans l'aventure, encore moins dans le rêve, on n'est pas encore dans le commercial, on est dans le scientifique, teinté de social. Car il s'agit également, pour l'administration Nixon, de rentabiliser l'incroyable effort financier déjà consenti par ses prédécesseurs, réutiliser les infrastructures déjà existantes et préserver les emplois de dizaines de milliers d'ingénieurs et d'autant d'ouvriers qui ont permis tout de même, 4 ans plus tôt, d'envoyer des hommes sur la Lune.
Houston, Roger, we copy and we're standing by for your 2GV.
Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Preuve de la filiation technique et seulement technique entre les programmes Apollo et Skylab, sur les premières images des maquettes qui circulent dans la presse, le grand public distingue une sorte de tube métallique géant d'une trentaine de mètres. Sur ce tube sont greffés de larges panneaux solaires dorés et un télescope géant. La ressemblance de cette masse longiligne de plus de 90 tonnes avec une fusée ne doit rien au hasard. Le module principal de Skylab est en effet réalisé à partir du troisième étage de la fusée lunaire géante Saturne V, ce monstre de 110 mètres de haut qui avait propulsé 27 astronautes autour ou sur la Lune à travers 9 missions Apollo. Une page est quand même tournée. Et comme l'explique le journaliste Pierre Descargues au micro de France Culture, Skylab a pour mission d'analyser le fonctionnement du Soleil et de la Terre depuis l'espace.
Ce programme de Skylab, revenons à Skylab, fait avec et lancé par la dernière fusée qui devait servir à envoyer des hommes dans la Lune, et, parce que le programme a été écourté. Cette fois-ci, donc, le Skylab va tourner autour de la Terre pendant un an. On va non pas essayer d'observer ce qu'est la Lune, mais observer la Terre, parce qu'en réalité, ce sera un laboratoire céleste qui, pendant un an, va surveiller la Terre. Et effectivement, on observe, on voit, on peut faire des photographies, on peut voir, je ne dirais pas des bancs de poissons, mais en tout cas délimiter leur présence, on peut voir des forêts malades, on peut voir des incendies.
On peut voir des stocks de bombes atomiques, peut-être aussi.
Non, guerre. En réalité, ceux qui les fabriquent savent très bien où ils se trouvent.
Lorsqu'elle est dévoilée au grand public, la station Skylab fait en réalité ses 10 ans. Une décennie de recherches menées dans la plus grande discrétion en parallèle des missions lunaires. C'est aussi un préambule indispensable à un plus large programme toujours en réflexion à la NASA et pour l'heure toujours confidentiel, celui des Space Shuttles, ces navettes spatiales que les ingénieurs américains rendent capables de rejoindre l'espace avec leurs astronautes, puis de revenir se poser sur Terre comme un avion. Ce qui, d'un point de vue de l'image, en rajoute une couche sur le mythe spatial désincarné, banalisé, comme un avion. De toute façon, envoyer les humains dans l'espace, la NASA sait faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les envoyer en orbite autour de la Terre pendant une durée d'un mois représente un nouveau défi pour l'agence spatiale américaine. Un enjeu d'autant plus grand qu'il n'existe alors aucune littérature scientifique sur les effets prolongés de la vie en apesanteur sur le corps. Certaines théories pointent une détérioration possible des organismes et une altération des facultés mentales à cause des radiations solaires. Les astronautes de Skylab seront donc des pionniers sur ce point. La presse américaine les surnomme les premiers citoyens d'espace. Car au-delà des recherches qu'ils auront à mener, chacun d'entre eux servira aussi de cobaye pour étudier les réactions physiques et psychologiques en orbite. Le premier lancement comprendra la station seule, intitulée Skylab 1, puis l'envoi de 3 missions distinctes, Skylab 2, 3 et 4, comprenant chacune un groupe de 3 astronautes qui partiront les uns à la suite des autres pour travailler et vivre en orbite autour de la Terre pour des durées de 28, 56 et 84 jours, largement le temps pour le public de s'ennuyer ferme face à ce love story spatial. Et puis, afin d'économiser les coûts de formation pour un voyage dans l'espace, la NASA compose les deux premiers équipages de Skylab avec des vétérans des missions Gemini et Apollo, dont certains ont déjà participé à des missions, d'autres étant des doublures sur de précédents décollages, une sorte de mission compensatoire pour ces derniers. Et le troisième équipage, celui qui partira lors de la dernière mission, la plus longue, lui en revanche est novice. Les trois hommes qui le composent n'ont aucune expérience de l'apesanteur et de la vie dans l'espace. Certes, ils étaient aussi des doublures sur les précédentes missions, et aucun parmi eux n'a l'expérience d'un vol habité. Confiante dans son projet, ambitieuse de réussir un nouvel exploit pour assurer ses financements, la NASA se montre confiante. Et un an plus tard, au mois de mai 73, le premier équipage est prêt à partir.
Un grand événement spatial, demain, à Cap Kennedy, À 17h30 GMT, les Américains procéderont en effet au lancement de la station Skylab qui tournera autour de la Terre à quelques 435 km d'altitude. Le lendemain, trois hommes, Charles Conrad, Joseph Kervin et Paul Weitz, iront rejoindre cette maison laboratoire-atelier qu'est Skylab et qui leur servira de gîte pendant près d'un mois. C'est une nouvelle étape dans la conquête de l'espace et elle aussi capitale.
11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
Le 14 mai, dans un panache de flammes et de fumée, la fusée Saturne V, avec au dernier étage le tube de la station spatiale Skylab, s'arrache du sol sous les yeux des caméras de télé et des spectateurs du monde entier. 63 secondes plus tard, alors que la gigantesque fusée a déjà quitté l'atmosphère, un message d'alerte interpelle les ingénieurs de la NASA. Sous l'effet de la vitesse et des forces aérodynamiques, une partie du bouclier thermique, sorte d'immense plaque ondulée qui protège le module spatial des rayons du soleil, a été arrachée. Au télescope, on aperçoit des débris retombés dans une lumière incandescente. On observe aussi l'une des rétrofusées se détacher de la structure et brûler l'un des panneaux solaires. Conséquence, sans bouclier thermique, la chaleur grimpe dangereusement à l'intérieur de Skylab, ce qui risque d'endommager le matériel de recherche. La NASA utilise alors l'intégralité de l'énergie disponible à bord et déploie à distance les panneaux solaires de la station pour récupérer de l'électricité et refroidir le module. Et c'est ainsi que le pire est évité. Mais le départ du premier trio d'astronautes doit être retardé d'une dizaine de jours, le temps d'entraîner les trois hommes à déployer un parasol géant pour protéger le module lorsqu'ils seront dans l'espace. Le 25 mai, les astronautes Conrad, Kervin et Weitz s'envolent donc à leur tour de Cap Canaveral. Un voyage sans encombre et sans fausse note leur permet de rejoindre une heure plus tard le module d'arrimage du Skylab. Dans les jours qui suivent, Conrad se paye une sortie dans l'espace. Après avoir réparé le bouclier thermique, le premier trio d'astronautes lance alors les premières expériences et observations. Parmi celles-ci, l'une d'elles est française, comme le précise le journaliste Jean-Louis Bourga sur France Inter.
Expérience française ce soir dans l'espace à bord de Skylab. Charles Conrad, le commandant de bord du laboratoire spatial américain, fera des études sur le rayonnement ultraviolet des étoiles à l'aide d'un appareil français qui s'appelle Atlas. L'expérience sera dirigée par le docteur Georges Courtès, le directeur à Marseille du laboratoire d'astronomie spatiale du CNRS. Atlas fonctionnera à travers le hublot du Skylab, à partir duquel les astronautes effectuent la plupart des expériences scientifiques de leur programme.
Okay, Bob, I'll be standing by for your call out shortly. 13 forward.
Le 22 juin, après presque un mois d'un voyage inaugural en orbite, les trois astronautes de la mission Skylab 2 redescendent sur Terre. Tout encore se passe comme prévu. Le petit vaisseau entre dans l'atmosphère, puis ouvre ses parachutes et atterrit dans l'océan quelques minutes plus tard. Conrad, Kervin et Weitz sont accueillis en héros. Même joie, même émotion et même accueil trois mois plus tard, en septembre, lorsque le deuxième équipage, nom de code Skylab 3, revient à son tour après sa mission en orbite à bord de la station. Cette fois, les astronautes sont restés quasiment deux mois autour de la Terre. Et surtout, ils ont dépassé toutes les prévisions des tâches qu'on leur avait confiées. À Cap Canaveral d'ailleurs, on les surnomme l'équipage au 150% d'efficacité. Les attentes de la NASA sont donc très grande pour le troisième et dernier équipage, pourtant le moins expérimenté, le Skylab 4, dont le départ est prévu début novembre.
4, 3, 2, 1, I see ignition, I see ignition. There is a liftoff, the rocket is proceeding very smoothly up the gantry, and it's a beautiful, beautiful liftoff.
Le 16 novembre 1973, les astronautes de la mission Skylab 4 s'envolent de la base de Cap Canaveral pour rejoindre la station spatiale américaine. Dans le module de commande, ils sont trois, le commandant Gerald Carr et à ses côtés Edward Gibson et William Pogg. Leur mission consiste à mener une série d'observations et d'expérimentations à bord du Skylab pendant presque trois mois, cette fois. Il est notamment question de suivre la trajectoire du Soleil et celle de la comète Kultek, tout juste découverte, à l'aide d'une caméra ultraviolette. Les astronautes doivent aussi expérimenter sur eux-mêmes l'évolution du corps humain, soumis à d'intenses exercices dans un environnement sans pesanteur. Enfin, dans les soutes du module, la NASA leur a mis du matériel. Dans un petit bocal en verre, il y a par exemple une araignée vivante. Des chercheurs de l'Université d'État de Californie veulent en effet savoir si, oui et comment, une araignée peut tisser une toile en apesanteur. Si ce voyage pour rejoindre la Skylab se déroule sans encombre d'un point de vue technique, à bord du module, les choses ne se déroulent pas aussi bien que prévu. Deux des astronautes souffrent de maux de tête et l'un d'eux, Pog, est même pris de vomissements. La règle veut que tout événement non prévu durant le vol ou lors de la vie dans la station et qui affecte le vaisseau ou l'équipage soit rapporté immédiatement par radio à Ground Control, le centre de commande basé à Houston, en lien 24 heures sur 24 avec les astronautes.
Houston, say again, please.
Houston, we have a problem.
Toujours est-il qu'à leur arrivée à bord de la station, car Gibson et Pog vont avoir droit à un accueil surprenant, comme l'expliquent Jean-Claude Bourret et Thierry Bourgeon sur l'antenne de France Inter.
En pénétrant hier soir dans le laboratoire spatial, les astronautes de Skylab 3 ont eu un moment de frayeur. Là, sous leurs yeux, trois hommes étaient installés. Ils se trouvaient sur la bicyclette, sur la table des expériences médicales et aussi dans la toilette de bord.
Il s'agissait en fait de la première grande farce spatiale. L'équipage de Skylab 2 avait confectionné, avant de partir, des mannequins à l'aide de combinaisons bourrées de vêtements. Cela dit, William Pogg, l'un des astronautes de la mission, n'a pas tellement envie de rire ce matin. Son estomac a passé une nuit agitée. Les spécialistes de la NASA ne sont pas inquiets, ce genre de malaise est fréquent au début d'une mission.
Depuis les succès des missions Skylab 2 et 3, la NASA a revu le programme de travail des astronautes à la hausse. Le temps pour les pauses et les exercices physiques sont réduits à leur strict minimum. Le quotidien des trois hommes est réduit à une série de tâches intenses, souvent rébarbatives, dont on leur demande de transmettre ensuite le rapport et les résultats à Ground Control. La vie en apesanteur dans l'espace et l'enfermement dans ce tube métallique qui leur sert de lieu de vie et d'expérimentation perturbe vite car Gibson et Pog. Difficulté pour dormir, problème d'appétit, anxiété. Globalement, au bout d'une semaine dans le Skylab, les trois astronautes font part de leur grande fatigue et réclament qu'on allège leur programme. Or, chaque matin, sur leur téléscripteur, ils reçoivent plusieurs dizaines de pages de consignes pour des tâches à réaliser. Au sol, personne ne prend vraiment conscience de leur situation. Et dans la mesure où il s'agit de la dernière mission à bord de la station, les ingénieurs de la NASA veulent rentabiliser ce voyage au maximum. Conséquence, la demande des trois hommes est rejetée. Au matin du 27 décembre, après plus de 6 semaines en apesanteur et en orbite à 430 km d'altitude, les astronautes de la mission Skylab 3 ne répondent pas lors du briefing radio. Pendant les 90 minutes qui suivent, les 90 tonnes d'acier et d'aluminium du Skylab se transforment en un vaisseau fantôme. Grâce à leurs ordinateurs, les ingénieurs peuvent tout de même suivre la trajectoire de la station. Ils peuvent aussi constater que les paramètres de vol sont normaux. En revanche, et ce qui n'est pas du tout normal, et d'autant plus inquiétant, c'est qu'il n'y a plus aucune activité électronique dans le module de recherche, ni dans la zone de vie où habite l'équipage. C'est la première fois dans toute l'histoire de la conquête spatiale, en tout cas du côté américain, que ce genre de situation se présente. Alors, au centre de crise de la NASA, le directeur de vol élabore tous les scénarios possibles. Panne d'un composant électronique, problème d'oxygène, problème de batterie, collision du Skylab avec un morceau de météorite ou un débris. Pire encore, pourrait-il s'agir d'une tentative d'interception de piratage de l'Union soviétique pour brouiller le canal de communication entre Houston et Skylab? Bref, 90 minutes d'angoisse, c'est long. Mais on se souvient également que les derniers rapports de vol pointent tous un mécontentement et une fatigue des trois astronautes. Auraient-ils pu délibérément couper leur radio? L'hypothèse est envisagée, oui, d'autant que, subitement, le Skylab reprend contact avec la Terre.
Houston, roger, 169.1 by 60.5.
Dans son casque, l'officier de liaison entend subitement la voix de Gerald Carr. Normal. Le souffle et la respiration sont calmes, réguliers, et dans les échanges qui suivront et qui seront pour partie rendus publics, aucune allusion à ce qui vient de se passer. Comme il l'avait fait la veille, Carr fait le bilan des recherches tranquillement, prend en note les consignes de la NASA et ne se plaint de rien. Les paramètres de vol sont nominaux, les conditions d'observation de la comète sont bonnes, je vous recontacte plus tard, lance-t-il par radio. Alors, que s'est-il passé durant les 90 minutes qui ont précédé cet échange? Simple panne de communication entre le Skylab et la Terre, ou autre chose? Une mutinerie, par exemple, des astronautes pour dénoncer leurs conditions de travail et leur épuisement à bord de la station spatiale. On sait que Carr avait demandé un entretien avec le directeur de vol pour revoir et réduire le planning de travail. Cet épisode serait-il une mise en garde des astronautes pour obtenir gain de cause? La suite de cette affaire ne va faire qu'opacifier le mystère qui entoure la prétendue mutinerie des astronautes de la mission Skylab 4.
Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais le travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail, où je suis, il faisait. Je renonçais au travail, qui alors m'ignorait. L'appartement de taille, à être intimidant. Pour l'homme seul me poussait, à chercher du travail. Qui maintenant m'attend, et m'attendra longtemps. Qui maintenant m'attend. Et m'attend, et m'attendra longtemps.
Je recherchais du travail, nul autre n'y croyait. Je recherchais du travail, pas assez snob j'étais. Je renonçais au travail,
tu dors trop.
Oui, donc Gerald Carr, Edward Gibson et William Pogue vont rentrer dans l'atmosphère. Ils vont revenir vendredi prochain et ce sera le dernier vol. Il y a eu au total 3 occupations, il y a eu par 3 fois des équipages qui se sont relayés à bord de Skylab. Et ils sont restés, ils ont battu tous les records, environ 85 jours, et ils ont fait des quantités d'expériences. Ils font effectivement le ménage, et ils rentrent dans leurs valises, dans leurs caisses, tous les documents, les plaques photographiques et les différents essais biologiques ou autres qu'ils ont accumulés au cours de ce séjour. Pourquoi ? Mais parce que c'est le dernier vol de toute l'épopée, on peut dire maintenant l'épopée, d'Apollo. Skylab n'est que la dernière phase des vols Apollo. Il y a eu d'abord les vols Apollo vers la Lune, et puis il est resté un morceau de fusée et que l'on a en quelque sorte aménagé, transformé pour le faire tourner autour de l'atmosphère, au-dessus de l'atmosphère terrestre en état de non-pesanteur, et voir ce que l'on pouvait en tirer. C'est-à-dire, ça a été un banc d'essai des futures stations orbitales.
Lorsque Gerald Carr, Edward Gibson et William Pogg rentrent sur Terre le 8 février 1974, ils sont accueillis tous les trois en héros. Leur nom vient s'ajouter à la très courte liste des hommes qui sont allés dans l'espace, et leur photo fait la une des principaux quotidiens américains. Durant les 84 jours qu'ils ont passés en orbite, les trois hommes se sont livrés avec succès à toute une série d'expériences et d'observations, dont les résultats confirment ou infirment de nombreuses hypothèses de la communauté scientifique. Leur rapport et leur cliché sur la comète Kohoutek fournissent aux astronomes des informations précises et inédites sur cet astre lointain. Enfin, de leurs deux sorties extramodulaires, car Gibson et Pogg ont démontré la possibilité de réaliser certaines opérations de réparation en apesanteur. À Washington, le président Nixon félicite la NASA pour avoir, je cite, « mené au nom de l'Amérique un programme de recherche scientifique qui a vocation à servir l'humanité tout entière ». Dans le plus grand secret, l'agence spatiale américaine travaille déjà une mission inédite de collaboration avec l'Union soviétique, mais oui, pour développer de nouvelles stations orbitales communes. Personne donc pour évoquer ou rappeler l'incident du 27 décembre, comme s'il ne s'était rien passé durant ces 90 minutes, où, rappelons-le, le contact radio a été subitement rompu entre Houston et les astronautes de Skylab. Deux ans plus tard, au mois d'août 76 donc, alors que l'affaire semble avoir été oubliée de tous, l'épisode de la mission Skylab 4 fait un étonnant retour à la une de la presse. Dans son édition l'été, le prestigieux magazine américain The New Yorker affirme que les astronautes en question auraient observé une sorte de grève pendant ces 90 minutes pour dénoncer leurs conditions de travail et demander un allègement de leurs tâches. L'article est signé Henry Cooper, un écrivain environnementaliste, passionné par la conquête spatiale et réputé proche de certains astronautes du programme Apollo. Alors, de qui Cooper tient-il son information? Personne ne le sait, car dans son article, il ne cite personne et il ne donne pas non plus le nom de son informateur. Puis il réitère ses allégations contre la NASA quelques mois plus tard. Cette fois, c'est dans un livre, publié par un éditeur spécialisé dans la publication de livres scientifiques et universitaires, que Cooper affirme ceci. Les astronautes de Skylab 4 ont fait une grève. Ils ont arrêté de travailler et ils ont fait ce qu'ils voulaient pendant 90 minutes. L'affaire rebondit une nouvelle fois en 1980 sur le campus de l'Université américaine de Harvard. Des professeurs rédigent les conclusions d'une étude de cas intitulée « Grève dans l'espace ». Sur la première page de leur livret d'analyse, on peut lire ceci. Le 27 décembre 1973, le troisième équipage de la mission Skylab a éteint volontairement sa radio et a refusé toute communication avec le contrôle au sol à Houston. En référence à cette étude, les professeurs citent une dizaine d'articles, tous publiés dans des revues spécialisées sur l'espace et l'aéronautique. Or, dans ces revues, on trouve plusieurs paragraphes sur les relations difficiles entre l'équipage du Skylab et Houston. Mais aucune mention à la journée du 27 décembre et encore moins à la grève qui s'y serait déroulée. Depuis le départ, l'agence spatiale américaine s'était refusée à tout commentaire sur une affaire qui, disait-elle alors, n'était qu'un montage spéculatif, résultat de l'esprit enfiévré d'un écrivain, peut-être. Mais face aux rumeurs persistantes, la NASA publie un premier démenti près de 30 ans après les faits, au printemps 2000. Puis un autre, en novembre 2020, intitulé « La véritable histoire de Skylab 4 et la soi-disant grève de l'espace », texte dans lequel elle déconstruit les théories d'Henry Cooper et de la Harvard Business School. Sur la base d'une partie des retranscriptions de communication entre l'équipage de Skylab Ground Control qu'elle rend publique, la NASA fait le récit jour par jour des événements survenus dans la station. Un récit qui s'agrémente de nombreuses photos où l'on voit les astronautes souriants se livrer à des exercices d'effort en apesanteur pour déterminer la résistance du corps humain. En conclusion, la NASA publie ce communiqué.
Il est regrettable que l'histoire non vérifiée ait commencé, mais d'autant plus qu'au fil des années, des organisations prestigieuses l'ont propagée, lui donnant du crédit alors qu'elle ne le mérite pas. Malgré les témoignages des principaux participants impliqués et malgré les articles publiés réfutant ces affirmations, cette histoire apparaît encore des décennies après les faits souvent dans des contextes malheureux. Un tel cas s'est produit dans les titres faisant état de la mort de l'un des astronautes de Skylab 4, William Pogue. William Pogue, l'astronaute qui a organisé une grève dans l'espace, décédé à 84 ans.
Au printemps dernier, pour la première fois, l'un des trois astronautes de la mission Skylab 4 parle, en l'occurrence au micro de la BBC. Edward Gibson, c'est lui, était donc le numéro 2 au sein de l'équipage. Son témoignage apporte un éclairage nouveau sur l'affaire, car pour la première fois, il reconnaît une erreur dans le comportement des astronautes.
C'était notre seconde grande erreur. Certains l'ont interprété en bas comme une grève. On n'en a pas parlé. C'était notre erreur. C'était juste une décision inappropriée et rien d'une stratégie avec le contrôle au sol. Quelqu'un a dit qu'on avait fait grève en refusant de parler au contrôle au sol et ensuite aux médias.
Dans les grandes lignes, car Gibson et Pogue voulaient donc simplement protester contre leurs conditions de travail. Ils n'avaient pas imaginé que leur démarche pourrait être interprétée par la suite comme une grève. D'autant que, comme l'explique Gibson, ils n'ont coupé le contact radio que lors du passage de Skylab de l'autre côté de la Terre, lorsqu'en théorie justement, la communication avec Houston n'est pas possible, ou très difficile. Si les propos de Gibson sont clairs et le ton assuré, certains journalistes américains estiment tout de même qu'en tant que seul survivant de l'équipage, l'astronaute tente de sauver la face tant l'image du héros de l'espace s'accorde peu, il est vrai, avec celle du camarade syndiqué, surtout aux États-Unis. Dans le contexte de l'époque, le début des années 70, deux éléments pourraient expliquer que si grève il y a eu, tout aurait été fait pour la dissimuler d'abord. En pleine guerre froide, les États-Unis n'auraient pas pu se permettre de perdre la face contre l'Union soviétique qui se livrait au même moment à d'autres tests pour construire sa propre station. Pour la NASA, après les années fastes du programme Apollo, l'enjeu était de convaincre les différents présidents et différentes administrations de continuer à lui allouer des crédits pour la recherche et les vols habités. Dans ces conditions, une grève à bord d'un vaisseau aurait fait tâche. Saura-t-on jamais ? De toute façon, lieu de fascination, d'attraction et théâtre de nombreuses recherches, l'espace alimente depuis des décennies les histoires les plus folles, mais aussi les plus passionnantes. Celle de la supposée grève des astronautes de Skylab en fait partie, elle continue d'ailleurs aujourd'hui, à attiser la curiosité aux États-Unis. Une histoire en apesanteur, donc sans gravité.
J'ai packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Thank you.
Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui 1973, les présumés mutins de l'espace, dont nous allons parler avec notre invité Philippe Hénarejos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique et rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Vous avez suivi la découverte des premières exoplanètes en 94. Vous êtes l'auteur de nombreux articles sur ce domaine de l'astronomie et de comment on dit d'ailleurs, l'astronautique?
L'astronautique,
oui. Ouais, mais ça marche, ouais, aussi pour les fusées, bah d'accord. Et vous avez écrit, justement, en 2018, chez Belay, ce livre magnifique. Il est un très beau livre, avec des très belles photos. Ça s'appelle « Ils ont marché sur la Lune ». Et j'en conclus que vous êtes, comme beaucoup d'autres, passionné par le côté épique, l'épopée d'Apollo, ce merveilleux programme dont on va se faire le luxe de parler aussi également tout à l'heure. Voilà, bon. Alors quand même, restons dans le sujet pour débuter. Skylab, vous y croyez, vous, à cette grève? Quel regard vous posez sur cette histoire qui n'est pas une histoire, on va être honnête, qui n'est pas une histoire essentielle dans la conquête spatiale, mais qui dit des choses, qui est intéressante parce que elle nous met dans une époque un peu de transition dans la conquête spatiale américaine, et on y reviendra. Déjà, est-ce que vous y croyez, ce mouvement de grève?
Les faits sont difficiles à établir. Si les principaux protagonistes refusent de dire ce qui s'est réellement passé ou disent vraiment ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire rien, ou une simple erreur de communication, on doit se contenter de ça. Par contre, il est certain que effectivement, après toutes les missions spatiales américaines qui ont conduit les astronautes sur la Lune, on est à un tournant avec des missions d'une configuration nouvelle. C'est-à-dire que jusque-là, maximum, on passait 14-15 jours dans l'espace, le temps d'aller sur la Lune, de marcher dessus pendant 3-4 jours.
Et de revenir.
Et là, avec la station Skylab, on teste les premiers séjours de longue durée dans l'espace. Et jusque-là, la NASA n'est habituée qu'à être en contact permanent avec ses astronautes, parce que ce sont des sprints, si vous voulez. Ce sont des missions très courtes et chaque minute est programmée. Leurs tâches sont... C'est du 24 heures sur 24, leur mission. Et on s'aperçoit avec Skylab que sur une durée de plusieurs semaines, jusqu'à presque 3 mois, hein, 3 mois la dernière mission, ça marche plus, en fait. Et comme toujours, on expérimente les choses en faisant des erreurs. Il est certain que c'est sûr. Les astronautes étaient submergés par le nombre de tâches qui étaient à faire. Et on leur avait affecté des tâches comme si c'était une mission d'une semaine. Sauf que sur 3 mois, c'est plus possible.
Donc on peut imaginer qu'ils ont protesté quand même.
Voilà. Oui, c'est clair, ils ont protesté parce qu'ils ont vu qu'ils ne s'en sortaient pas. Ils avaient une pression terrible. C'était pas des gens qui étaient tir au flanc. Ils étaient là pour faire le maximum, pour être à 100%. Je me rappelle avoir discuté avec Alan Bean qui était dans la mission Skylab 3, donc la
précédente. Et Apollo 12.
Ouais. Et il m'a dit, j'ai fait un bien meilleur travail d'astronaute lors de ma mission Skylab que sur la Lune où j'étais un peu un touriste. Sur Skylab, ils étaient là pour bosser et ils voyaient qu'ils ne s'en sortaient pas. Parce que tout simplement, c'était un rythme qui n'était plus humain. Sur 3 mois, il faut prévoir qu'on va faire sa journée de travail, qu'on va se reposer et qu'on va peut-être avoir un jour de congé de temps en temps, un dimanche, pour pouvoir être opérationnel. D'ailleurs, ça s'est passé après cet incident sur la fin de mission. Ils sont revenus avec un accomplissement bien meilleur qu'au début de leur mission et ils ont accompli plus de tâches que prévu parce que leurs horaires, leur emploi du temps avait été changé.
D'accord. Aménagé. Donc en fait ils reviennent avec un vrai certificat de compétence. Voilà, c'est des héros parce que quand même c'est pas banal hein, d'aller à 430 km d'altitude. Voilà. Et puis en même temps, ils sont pas non plus aux ordres. Finalement, ils ont tout gagné.
Oui, c'est ça, oui.
Au niveau de l'image, ils ont tout gagné.
Ils ont tout gagné. Alors, ouais. Juste pour les histoires de grève, ouais. Pour la petite histoire.
Oui, allez-y.
Moi, j'identifie la première grève de l'espace sur la Lune.
Non.
Lors de la mission Apollo 15,
avec
à
Scott.
L'été, avec Scott,
Scott
hein. Et Irwin. Lors de leur deuxième sortie...
Et Worden, voilà.
Voilà, Worden qui est resté en orbite autour de la Lune.
Bon.
Lors de leur deuxième sortie sur la Lune, pour explorer la Lune... Mmh. On leur dit, le centre de contrôle de Houston leur dit, dépêchez-vous de rentrer, maintenant il faut respecter le planning, etc., dépêchez-vous. Ils se dépêchent, ils arrivent près du LEM, etc., et puis à ce moment-là, on leur dit, bon, allez-y doucement, vous avez du temps. Et là, Scott, qui avait quand même un sacré caractère, il dit, mais vous fichez de nous, vous nous avez dit de nous dépêcher, et maintenant vous nous dites qu'on a du temps. Alors, il dit, littéralement, à son équipier Irwin, il dit, arrête de faire ce que tu fais, prends 5 minutes, on regarde la Terre, on regarde la Lune, on fait plus rien. À Houston, le Capcom essaie de leur dire quelque chose, enfin, de réagir. Et Scott dit non, on fait plus rien pendant 5 minutes. On profite du bon temps et du paysage. Pour moi, ça, c'est la première grève. En réalité, ils étaient pros et ça a duré que 3 minutes 40 secondes, je crois.
Oui, mais pour les militaires, parce que les astronautes étaient, à part Neil Armstrong, il ne fallait pas qu'ils soient militaires. Il fallait qu'un civil soit le premier homme à poser le pied sur la Lune. Mais les autres étaient militaires. Aldrin était militaire et ces deux, Scott et...
Oui, ils étaient militaires aussi.
Ouais. Donc ça donne une dimension supplémentaire. Des militaires qui disent au commandement, bah non.
Ouais.
Bah voilà.
Ben Scott estimait qu'il était le commandant de la mission et que sur place aussi, il devait avoir la maîtrise de ce qu'il faisait. Et c'est marrant cette histoire de militaire parce que Pete Conrad, dont on a entendu parler dans le sujet juste avant.
Est-ce que c'est celui d'Apollo 12 aussi?
C'est le même.
Ah, c'est le même.
Celui, quand il était sur la Lune, lors de la deuxième sortie sur la Lune avec Apollo 12, il sent bien qu'il devrait rester un peu plus, demander un peu plus de temps parce qu'ils ont du temps dans l'oxygène et ça. Mais il a déjà demandé une extension de mission, de durée. Et il avait passé un deal avec Mission Control où le deal était si tu demandes une extension, t'en auras pas deux. Et donc, à un moment donné, il sentait qu'il pouvait en avoir une deuxième pour faire d'autres tâches, pour ramener d'autres échantillons, et c'est ça. Et il raconte plus tard, enfin, Bean m'a raconté ça, Conrad, qui était un militaire, il avait passé un deal, c'était les ordres, il avait obéi, et il s'est refusé à demander une deuxième extension, il l'a un peu regretté.
Bah oui, et d'autant plus que ces trois astronautes sont partis dans une indifférence presque générale, puisque l'apothéose avait été accomplie en juillet 69. Eux, ils partent en novembre 69, sous l'orage, je crois, d'ailleurs.
Absolument, hein, ils prennent même la foudre.
Ils prennent la foudre, donc ça n'est que le deuxième, ils prennent la foudre, et tout le monde s'en fiche.
Oui.
Ça, c'est incroyable. Bon, je reviens sur je reviens quand même, parce qu'on n'a pas énormément de temps non plus, sur l'évolution du programme. Donc, on a Apollo, ensuite on a Skylab, on a quelque chose entre les deux. Est-ce qu'on n'a pas Apollo Soyouz?
Alors Apollo 12, c'est en 1975.
Donc c'est
la dernière capsule Apollo.
D'accord.
C'est pour marquer la fin et la réconciliation en quelque sorte, la détente entre l'URSS et les États-Unis.
Donc est-ce que on peut considérer Skylab comme l'ancêtre d'un point de vue véhiculaire de la navette, je parle du véhicule, et d'un point de vue de la mission comme l'ancêtre de l'ISS?
Oui, c'est plutôt l'ancêtre de l'ISS, d'ailleurs. Le programme Navette est déjà lancé lorsque Skylab est en orbite autour de la Terre. Et c'est effectivement une station prévue, elle est spacieuse, Skylab. À l'époque, en 1971, il y a quand même eu la première station orbitale qui était russe, Salyut 1.
Salyut, c'est le mot.
Qui était plus petite. Et là, Skylab, c'est marrant parce qu'il y a un module de secours qui est exposé au Air and Space Museum à Washington. J'ai l'occasion d'y rentrer, le public peut rentrer là-dedans, c'est un volume énorme. C'est un cylindre de 5 mètres de diamètre. À l'intérieur, tout a été reconstitué comme le véritable Skylab, et on s'aperçoit que c'était extrêmement spacieux par rapport à
genre,
tous les modules.
Genre 20 mètres carrés au lieu de... parce que les autres en avaient...
C'est des mètres cubes, alors je ne saurais pas dire combien,
il faut raisonner, en mètres cubes, vu qu'on est en apesanteur. L'espace pour le coup à vivre, il est aussi de bas en haut. Hein.
C'est ça, on occupe tout le volume et pas la surface.
Donc, vous avez
et donc
raison,
c'est un ancêtre de l'ISS. Alors l'ISS fait plus en mètres cubes que le Skylab, évidemment, mais c'est plusieurs modules plus petits mis bout à bout. C'est une espèce de... Ouais, ce sont des galeries, des boyaux plus petits. Mais Skylab, c'était vraiment un gros volume. Et effectivement, c'est l'ancêtre de l'ISS dans le sens où on apprend à vivre longtemps dans l'espace.
On va se retrouver dans 3 minutes, le temps d'écouter un autre équipage. Susan Stevens et Angelo D'Agustin qui chantent Reach Out.
I my apology. All the light came into form in my mind. Reach out to all the ones who came before you. Ponder what is right. You and I, in defiance, speak out the conversation they afford you. Wisdom of the wise, you and I, in defiance. And I come from conscience where there is no conjugation.
Inter, affaires sensibles.
Aujourd'hui, Skylab, dont nous parlons avec Philippe Hénard-Jos. Une dernière question sur Skylab, et après on ira faire un tour du côté du rêve. Quels ont été les enseignements, les découvertes scientifiques, les avancées finalement du programme Skylab? On est autour de la résistance de l'homme, c'est essentiellement ça?
Oui, c'est essentiellement l'apprentissage.
De l'humain, pardon, pas de l'homme.
Oui, de l'humain. C'est l'apprentissage d'un séjour long et prolongé dans l'espace. On ignorait à l'époque l'effet des rayonnements cosmiques, des rayonnements solaires, éventuellement des tempêtes solaires sur l'organisme humain. C'est vrai qu'on est moins protégé dans l'espace. Les astronautes qui sont dans la Station Spatiale Internationale, qui y restent 6 mois, prennent des doses de radiation bien supérieures à celles du personnel navigant dans les avions de ligne, qui déjà, étant en altitude, prennent plus de doses que nous qui restons au niveau de la mer. Donc tout ça, ça a commencé à être quantifié. On a appris comment les fluides à l'intérieur du corps commençaient à moins bien se répartir que sur Terre. Nous sommes des bipèdes faits pour marcher avec la gravité. Et là, ben, il y avait le syndrome qu'on appelait à l'époque patte de poulet. Je sais pas si on l'appelle toujours comme ça. C'est-à-dire que les astronautes sentaient qu'ils avaient leurs membres inférieurs qui étaient un petit peu atrophiés, comme des petites pattes de poulet. Et par contre, ils avaient la tête qui était un peu bouffie. C'est toujours le cas. Alors, on contrecarre ça aujourd'hui avec beaucoup de sport pour essayer de répartir les fluides, et puis il y a la perte osseuse, il y a la perte musculaire qui s'ensuit. Tout ça, on a commencé à l'apprendre vraiment avec Skylab, et puis aussi les Russes, côté russe, avec les missions Salyut.
On prépare Mars, en fait. On prépare rêve martien, quoi. Ben c'est-à-dire un très long trajet.
Ben oui, parce que si on veut aller sur Mars, c'est 6 mois aller en apesanteur, 6 mois retour en apesanteur. Et peut-être, alors soit on fait le choix de rester un mois, mais c'est pas très rentable, soit on reste un an, mais à gravité réduite, puisque Mars, c'est un tiers de la gravité terrestre.
Alors, je voudrais, puisqu'il nous reste quelques minutes, qu'on parle d'une mission, la mission Apollo 8. Alors bien sûr, Apollo 11, on en a beaucoup parlé, c'est l'apothéose, c'est la réussite. Apollo 13, on en aurait probablement pas peu parlé, je veux dire, s'il n'y avait pas eu l'accident. L'accident nous a sorti de la routine et nous a montré que ça pouvait pas être une routine, l'espace, et que peut-être le plus grand danger, c'est la routine, justement, qu'il faut toujours être hyper vigilant. De ce point de vue-là, et puisqu'il n'y a pas eu mort d'homme, Apollo 13 a peut-être rendu service dans le retour d'expérience. Apollo 8, peut-être la plus belle de toutes les missions, moins connue qu'Apollo 11, ça se passe en décembre 68, à Noël 68. un cadeau pour l'humanité. Racontez-nous. Revenons un petit peu sur Apollo 8, fantastique.
1968 était une année assez noire aux États-Unis d'ailleurs. C'était passé
beaucoup de violences, d'assassinats.
Mmh. Et donc cette mission arrive, elle est un peu précipitée parce que à l'époque à la NASA, on a peur que les Russes une fois de plus devance les Américains dans la course à l'espace, puisqu'ils se préparent. Ils ont déjà fait tourner des vaisseaux Zondes, qui sont des Soyouz modifiés, autour de la Lune. Donc, on intervertit les missions parce que le module lunaire n'est pas prêt pour Apollo 8, et on intervertit les équipages, et Apollo 8, on décide de le lancer sans module lunaire directement autour de la Lune, pour déjà marquer le territoire quand même, pour dire au moins si on n'est pas les premiers à se poser, on sera les premiers à tourner autour de la Lune. Et donc Borman, Lovell et Anders, les trois astronautes, embarquent en fin décembre 1968, je me rappelle plus la date exacte du décollage, ils étaient en orbite de la Lune, autour de la Lune, le 24 et le 25 décembre. Et donc ce voyage, il est formidable parce que c'est le voyage de Jules Verne finalement, c'est de la Terre à la Lune.
Là on est vraiment dans le rêve.
C'est la première fois qu'on s'éloigne, que des êtres humains s'éloignent de la Terre. Et d'ailleurs, ils vont en faire l'expérience parce que ils ont emporté des appareils photo pour photographier la Lune. Ils découvrent cette surface cratérisée à 100 km de distance. Donc je pense que c'était une vision extraordinaire. Et ils ont tout focalisé sur l'étude de la Lune pour essayer de chercher un endroit où se poser lors des futures missions.
Bien sûr.
Mais au cours de la quatrième orbite autour de la Lune, ils font une manœuvre. Et cette manœuvre oriente le vaisseau d'une telle manière que, au moment où ils reviennent de la face cachée, ils aperçoivent un truc extraordinaire. C'est la Terre qui se lève sur l'horizon lunaire.
Le fameux lever de Terre auquel est fragile notre Terre.
Et j'ai eu la chance de discuter avec Bill Anders qui faisait partie de cette mission. C'est lui qui a pris la photo. Il m'a raconté qu'il avait vu ça. Et c'était marrant parce que Frank Borman ne voulait pas qu'il emporte un gros téléobjectif. Il avait peur que ça casse des instruments de bord à bord.
C'est commandant de bord, Borman.
Voilà. Et il était très précautionneux. Et Anders avait réussi à avoir gain de cause. Il avait son téléobjectif. Et là, il utilise son téléobjectif non plus pour photographier la Lune. Alors, tous les réglages de temps d'exposition, d'ouverture, d'obturateur étaient prévus pour la Lune. Et là, il essaye la Terre. Alors, il fait quelque chose au jugé. Il prend deux clichés comme ça. Après, il demande vite une pellicule couleur à Lovell, qui va vite fouiller dans le coffre à bagages, si vous voulez, et qui lui ramène la pellicule couleur. Il prend deux autres clichés. Et ce cliché, c'est formidable parce que ça marque les astronautes de voir ça, et ça marquera par ricochet tous les autres terriens qui vont voir ce cliché en couleur imprimé en une de tous les journaux de toute la Terre. C'est un des clichés les plus emblématiques du XXe siècle, et c'est celui qui nous dit, regardez là sur cette photo, on est tous là sur la photo, on est tous dans le même vaisseau, et la Terre finalement c'est rien d'autre qu'un vaisseau spatial un peu grand certes, mais pas infini. Et on commence à prendre conscience de ça. Et Anders me dit, on était parti pour explorer la Lune et on a découvert la Terre.
Et oui,
et c'est ça l'exploration aussi.
Exactement. Et on se souviendra, tous ceux qui ont la chance d'avoir vécu ce moment, en étant gamin, même tout petit, on s'en souvient de ce réveillon de Noël où sur la télévision, on voyait l'astre Sélène. On voyait de nos yeux d'humains. Et c'était complètement dingue. Une autre planète. Et c'était la Lune. Et je vais vous remercier parce que c'est la fin. Merci infiniment, Philippe Hénard-Réjos, pour tous vos éclairages sur cette conquête spatiale fascinante. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, mouvement social, si je puis dire, dans l'espace. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Johanna Gabric.